What the fuck? Quand les étudiants
s'emparent du micro.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez What the fuck sur Radio Campus Amiens. L'Université de Picardie Jules Verne regroupe en tout 36 unités de recherche réparties dans trois grands secteurs que sont les sciences, la santé et les sciences humaines et sociales. Nous vous proposons aujourd'hui de commencer un tour d'horizon de ces différents et nombreux laboratoires de recherche pour mettre en avant leurs travaux, leurs compétences et les avancées qu'ils ont accomplies dans leurs disciplines respectives. Mais surtout, ce sera l'occasion de mettre en avant les chercheurs et les chercheuses qui composent ces unités en leur donnant directement la parole. Aujourd'hui, nous nous intéressons au laboratoire CURAP-ESS, le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales, avec comme invité avec nous Laure Hatch. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Sana, merci pour votre invitation.
Vous êtes maîtresse de conférence française en démographie au département de sociologie de l'Université de Picardie-Jules Verne et vous allez nous parler de vos différents projets de recherche. Donc, comme je viens de le dire, vous êtes maîtresse de conférence en démographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre discipline, ce que cela implique par exemple et comment s'exerce-t-elle aujourd'hui?
Alors j'ai une formation en sociologie parcours démographie à Paris 5 et ce sont donc deux disciplines qui permettent de décrire et comprendre la société dans son fonctionnement et ses transformations. Alors c'est quoi la démographie ? Donc si je prends une définition de l'INED qui est l'Institut National des Études Démographiques, la démographie c'est l'étude des populations qui vise à connaître leur effectif, leur composition par âge, sexe, statut matrimonial, etc., et leur évolution. Elle utilise donc les informations statistiques fournies par les recensements et l'état civil. Pour illustrer cette définition, je prends l'image d'une photo, à un instant T, de la population française, par exemple. Un ou une démographe va chercher à décrire l'état de cette population à un instant T, c'est-à-dire on va chercher à comprendre combien il y a de naissances, combien il y a de personnes qui décèdent, combien il y a d'unions, mariage, pacs, cohabitation, qui rentre, qui sort sur le territoire. Ensuite, on va prendre une seconde photo à un autre moment, à 5 ans plus tard, par exemple. Et on s'intéresse alors au nouvel état de la population. Et surtout, on va chercher à comprendre la dynamique entre ces deux années, entre T et T plus 5. Et on va chercher à comprendre, est-ce que la population a augmenté, est-ce qu'elle a diminué, est-ce qu'elle a stagné. Et on va ensuite s'intéresser à la relation entre état et dynamique, c'est-à-dire comprendre quels sont les facteurs qui permettent de saisir l'évolution d'une population. Donc est-ce que c'est la fécondité, est-ce que c'est la mortalité, est-ce que c'est la mobilité, la mobilité des personnes qui rentrent, qui sortent sur un territoire.
Est-ce que c'est quelque chose qui s'étudie sur le temps long ou est-ce que vous préférez prendre des temps un peu plus courts, comme vous avez dit, là, 5 ans, ou ça peut durer, par exemple, sur un siècle?
Oui, bien sûr. Le rapport au temps, c'est une dimension très importante en démographie. Et c'est ça aussi la richesse de cette discipline, c'est qu'on peut associer l'histoire et la démographie, et le démographe peut s'appuyer sur les données d'archives, par exemple, pour reconstruire des indicateurs ou pour mener une étude sur une thématique précise.
C'est ça, c'est une question au final d'interdisciplinarité. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous donner un autre exemple? Je sais que vous, par exemple, vous mélangez beaucoup la sociologie et la démographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se met en place?
Alors, pour vous donner un exemple concret, là, je participe à un projet de recherche qui, l'acronyme, c'est VIDOM, qui signifie violence et intersectionnalité dans les Outre-mer. Outre-mer, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, île de la Réunion. Et dans ce gros projet de recherche, qui est d'ailleurs dirigé par deux chercheuses de l'INED, donc l'Institut National des Études Démographiques, j'y contribue en deux axes, on va dire. Le premier, c'est que je mobilise une enquête statistique démographique qui s'appelle Virage d'hommes, violence et rapports de genre dans les Outre-mer, pour étudier la précarité comme un facteur d'exposition aux violences conjugales. En complément, je mène une étude sociologique sur les parcours de sortie des violences conjugales à la Martinique. Donc, avec deux autres collègues, on s'intéresse aux personnes qui subissent ou qui ont subi des violences conjugales. Et on va mener des entretiens sociologiques pour retracer leur parcours d'énonciation et de dénonciation des violences conjugales et comprendre quels ont été les leviers, mais aussi les freins à pouvoir énoncer et dénoncer des violences conjugales. Donc, est-ce que une association, est-ce que une amie, est-ce que le fait de porter plainte à la police ou à la gendarmerie a permis à enclencher, on va dire, un processus pour permettre à la personne victime de violences conjugales et bien d'engager un parcours de sortie.
Vous menez aussi en ce moment un autre projet qui s'appelle APS, donc Accès au parcours de soins et solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce projet consiste ?
Donc, le projet APS, ce qui signifie Accès au parcours de soins des migrants dans la Somme, vise plusieurs objectifs. Le premier, retracer le parcours migratoire de ces personnes, en portant une attention à l'état de santé et la possibilité de rencontrer un professionnel de santé au cours de ce parcours. Comprendre également les conditions d'arrivée dans la Somme et la prise en charge de la demande d'asile de ces personnes. Et enfin, troisième objectif, évaluer la connaissance de leurs droits, notamment en termes de santé, et leur accès à des parcours de soins selon leurs besoins. Et donc, pour répondre à ces objectifs, on mène une enquête qualitative par entretien, notamment auprès des partenaires institutionnels et associatifs qui interviennent dans le parcours migratoire des demandeurs d'asile, notamment, mais aussi des déboutés, ainsi que des professionnels de la santé. Et on mène des entretiens à passage répété avec les migrants, c'est-à-dire qu'on les rencontre deux ou trois fois, puisqu'on ne dit pas la même chose à une personne qu'on rencontre à plusieurs reprises. Et pour ce terrain, j'ai pu bénéficier de l'aide du coup d'étudiants et d'étudiantes du département de sciences humaines et sociales, notamment de l'UPJV, qui ont donc mené des entretiens avec des demandeurs d'asile et des déboutés. Et concrètement, on a pu rencontrer une trentaine de personnes. Au moins deux fois, et ça c'est un réel enjeu méthodologique parce que c'est une population qui est amenée à se déplacer dans le cadre de leur procédure de demande d'asile. Ce projet APS, je le co-dirige avec Vinky Menguyen, qui est médecin et anthropologue. Et ce projet est financé par l'ANRS, l'Agence nationale de recherche de lutte contre le sida, les hépatites et les maladies émergentes.
Et comment est-ce que l'idée de travailler sur ce thème-là vous est-elle venue ?
Alors l'origine de ce projet APS, le projet APS est le prolongement d'une enquête sociologique menée après ma thèse, qui était donc une recherche exploratoire, menée en 2016, donc dans le cadre d'un postdoc. Et cette recherche était déjà financée par l'ANRS et était déjà co-dirigée par Vinky Menguyen, et Annabelle Dugré-Duloup, qui est démographe à l'Institut de recherche, à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement. Et donc cette enquête exploratoire portait sur la connaissance et l'acceptabilité d'une nouvelle offre de prévention au VIH, le Truvada en prophylaxie pré-exposition, chez les migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui résident en Île-de-France. À l'issue de cette enquête, avec Vinky Menguyen, on a voulu monter un peu en généralité et ne pas avoir un focus que sur la prévention au VIH, mais s'intéresser plus largement au parcours d'accès à l'information, mais aussi à l'ouverture des droits, notamment la santé, mais aussi s'intéresser au non-recours du coup aux soins et à la santé.
On dit souvent aussi que les chercheurs et les chercheuses sont influencés dans leur choix de sujet de recherche, soit par l'époque dans laquelle ils ou elles vivent, ou alors par leur propre histoire. Est-ce que ça a été le cas pour vous avec vos différents sujets de recherche ?
Je pense que ça relève d'un processus, d'un parcours universitaire, académique, où on rencontre des personnes avec qui on a envie de travailler, avec des sujets en effet auxquels on n'aurait pas pensé. Et puis, quand on commence à lire, quand on commence à faire des terrains exploratoires, on découvre aussi une thématique. Et on se dit, là, il y a des choses à étudier, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Donc, je dirais que c'est une articulation entre circonstances, opportunités aussi, rencontres et intérêts.
Et pour en revenir un peu plus sur le projet APS, ou d'ailleurs sur d'autres de vos projets en cours, comment est-ce que vont se dérouler vos recherches? Quelles en sont les différentes étapes? Et où en êtes-vous actuellement?
Pour tout projet, il faut en effet trouver du sens et un intérêt à monter ce projet de recherche. Parce qu'on ne fait pas de la recherche pour soi, on fait de la recherche pour les autres. Parce qu'après, l'idée aussi, c'est de produire des résultats et que ces résultats servent soit aux enquêtés, mais plus largement à la société. Donc l'objectif aussi d'un projet de recherche, donc, c'est de construire des hypothèses, de construire une problématique, de construire une méthodologie adéquate par rapport au terrain, par rapport à ce que l'on cherche à découvrir. Et pour mener à bien cette recherche, c'est dans la mesure du possible, c'est toujours mieux d'avoir un financement. D'avoir un financement qui permette du coup aussi de pouvoir rémunérer ou de faire participer des étudiants dans un cadre pédagogique pour leur montrer aussi ce que c'est la recherche. Mais aussi éventuellement financer un postdoc et donc trouver un financement pour mener à bien un projet de recherche, ça pour certaines thématiques, ça peut être un plus. Ouais.
Et justement, vous parlez des financements pour les recherches. On sait que c'est parfois compliqué de trouver des financements, qu'ils manquent cruellement. On sait aussi que la situation de la recherche n'est pas forcément idéale en ce moment. Et vous, du coup, qu'est-ce qui vous motive dans le travail de recherche et qu'est-ce qui vous pousse à continuer malgré la situation ?
Bah déjà, bon, je dirais une chance, c'est que je suis en poste. Donc, si je veux monter un projet de recherche et que je n'ai pas de financement, je peux quand même décider de monter une recherche. Il y a plein de projets de recherche qui ne sont pas du tout financés, qui sont super intéressants et qui mérite d'exister. Donc oui, après, c'est sûr, c'est pas une fin en soi. C'est parfois, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un plus pour financer des personnes, mais aussi financer du matériel. Mais bien sûr, s'il y avait beaucoup plus de financement, je pense aussi que ça, parfois, ça aiderait aussi certains projets à aboutir aussi, à aboutir.
Et par rapport à ça, est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée de changer de pays pour faire de la recherche dans un pays qui prend davantage en considération la recherche et où la situation serait peut-être plus idéale ?
Non, parce que je pense qu'il y a des choses à faire et à faire bouger en France. Et donc, du coup, autant rester ici et pour essayer de faire avancer les choses d'ici.
Et du coup, quels sont pour l'instant les axes de recherche et les analyses auxquelles vous dirigez en ce moment sur votre projet de recherche ?
Alors pour le projet de recherche APS, par exemple, sur l'accès au parcours de soins des migrants dans la Somme, le terrain est en cours. Donc là, je ne peux pas encore vous donner, mais si vous me réinvitez...
Avec plaisir.
À l'issue de ce projet en 2023, je serais ravie de communiquer quelques résultats.
Et enfin, dernière question, quels conseils donneriez-vous aux étudiants et aux étudiantes qui voudraient se lancer dans la recherche ?
Moi, je me suis engagée dans la recherche. J'ai mis 2 ans entre mon master recherche et l'inscription en thèse parce que je n'avais pas réuni 3 conditions. La première, je n'avais pas trouvé un sujet qui me passionnait. Il y avait des sujets qui me plaisaient, mais je n'avais pas trouvé un sujet qui me passionnait. J'avais pas trouvé un financement de thèse et je voulais pas m'engager en thèse sans être financée. Et je voulais aussi être encadrée, être dirigée par un professeur avec qui je savais que je pourrais travailler pendant 3 ans minimum, 3-4 ans, en toute confiance. Et il m'a fallu 2 ans pour réussir à rassembler ces 3 conditions. Et du coup, mes années en thèse se sont très bien passées parce que j'ai réussi à réunir ces trois conditions. Donc après, je pense qu'avant de s'engager en thèse, il faut savoir pourquoi on le fait, à quelles conditions, quel est le prix à payer Et à partir de là, pas lâcher, quoi.
Et par exemple, par rapport au sujet, comment on sait pour savoir que c'est le bon sujet sur lequel on est prêt ou prête à travailler pendant au minimum 3 ans, voire même 4-5 ans?
Ça, je pense que c'est tout le parcours universitaire qui est aussi important. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en thèse comme ça, c'est un processus, c'est aussi un parcours qui débute, on va dire, dès la L1, qui se poursuit aussi par son choix déjà de mémoire de M1, par éventuellement son choix de faire un M2 pro, un M2 recherche. Qu'est-ce que, voilà. Donc déjà, ça guide un peu, ça oriente un petit peu ce vers quoi, vers son sujet de thèse. Après, il ne faut pas aussi hésiter à discuter avec des doctorants, avec les enseignants du département. Ne pas hésiter à aller mettre les pieds dans un laboratoire de recherche aussi, pour voir un peu comment ça se passe. Donc se renseigner sur ce milieu universitaire. Et puis après, quand on sujet à soi, je pense que ça se vit, ça se ressent.
Je suis d'accord avec vous. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec vous.
Merci Sana.
Nous continuons de notre côté avec les événements culturels sur Amiens pour le mois de mars. Le 30 mars auront lieu les Nocturnes de l'Histoire, un événement national dont le but est de promouvoir et diffuser les savoirs historiques. Des manifestations sont prévues à l'UPJV dans le cadre de cet événement, organisé par les étudiantes et étudiants de M1 d'Histoire et leurs enseignantes. Au programme du projet intitulé « Quand les sources font écran », une journée d'études, un débat ouvert et une conférence débat avec pour but d'explorer et de discuter les problèmes liés à la fois au manque de sources et à la redondance dans la recherche historique. Plus d'informations sont à retrouver sur le site des Nocturnes de l'Histoire. Côté lecture maintenant, nous vous proposons le manga L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Dans un monde où règne la magie, mais où seuls les sorciers élus à la naissance ont le droit de la pratiquer, nous suivons les aventures de Coco, une ignorante, qui découvre les secrets de cet art et qui devient apprentie sorcière. Les dessins magnifiques de l'artiste nourrissent son univers riche et féerique, dans lequel vous n'aurez aucun mal à vous plonger. Les 9 premiers tomes du manga sont dès à présent disponibles dans les bibliothèques de la ville. Enfin, nous vous recommandons le podcast Bouffon, présenté par Émilie Lestari, qui nous invite à repenser la manière de voir le contenu de nos assiettes en parcourant différents thèmes en lien avec les problématiques sociétales de notre époque, pour l'aider des chefs professionnels ou amateurs, mais aussi des sociologues et des géographes. C'était What the Fact sur Radio Campus Amiens. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
What the Fact? Quand les étudiants s'emparent du micro.